France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, le bug de l'an 2000. Épisode 1, l'an 2000, c'est loin. Le 9 septembre 1945, un bug, autrement dit un insecte, plus précisément un papillon de nuit, s'introduit dans le laboratoire de recherche informatique de Grace Hopper à Harvard. Cette femme de 40 ans est en train de se déplacer à l'intérieur de son ordinateur, le Mark II, pour vérifier son bon fonctionnement. Ce faisant, elle suit des yeux la petite bête qui vole entre les câbles de son énorme machine. Quand je dis qu'elle marche à l'intérieur, c'est parce qu'à l'époque, un ordinateur, ça a la taille d'une pièce entière. Une grande pièce même remplie d'armoires qui supportent des boutons, des leviers et surtout des fils électriques. Tout cela branché, commuté, tourné, enclenché dans un sens puis dans un autre par des mains humaines, celle en l'occurrence de Grace Hopper, surnommée Amazing Grace, cette militante de l'informatique, par ailleurs officier de la Navy, qui a co-inventé avec Robert Behmer le langage informatique intitulé COBOL et qui marche donc dans son ordinateur, bien qu'elle soit elle-même d'une taille tout à fait standard. Alors que le papillon intrépide vole de câble en câble, il ne sait pas qu'il va lui aussi entrer dans l'histoire pour le meilleur et pour le pire, qu'il va devenir la métaphore de nos angoisses technologiques. Pour l'instant, aussi inconscient du danger qui le guette que de la gloire qui l'attend, il s'introduit dans la machine et là, on entend un bruit électrique, puis la salle des machines se tait. L'insecte a fait disjoncter Mark II. Grace Hopper s'approche de l'insecte mort, le prélève délicatement par les ailes et le scotche dans son carnet. Elle vient de répertorier le premier bug informatique, le bug de 1945, 19 836 jours avant celui de l'an 2000.
Le bug de l'an 2000 est un récit en deux épisodes de Salle des Archives. Une proposition de Mathieu Garrigou-Lagrange, Julie Béressy et Lily Corner.
Si rien n'est fait, d'ici le 31 décembre 1999, tout ce qui ressemble à un ordinateur sur la planète tombera en panne à cause d'une date que ces machines ont toujours lue en 6 chiffres. Exemple, le 31 décembre 1999 s'affiche 31 12 99 et non 31 12 1999. Du coup, l'an 2000 va s'écrire 00 et très logiquement pour les ordinateurs, il s'agira de l'année 1900.
Au premier temps de l'informatique, les ingénieurs ont donc décidé de se passer des deux premiers chiffres de la date pour encoder les années. L'idée derrière ce tour de passe-passe était de réaliser de substantielles économies à l'heure où chaque information prenait beaucoup de place, physiquement parlant, puisqu'elles étaient matérialisées au tout début de l'informatique par des trous sur des fiches perforées, et plus il y avait de fiches, plus cela prenait de place. Ensuite, quand les informations ont été stockées dans les premiers disques durs, l'espace disponible se trouvait également en quantité limitée et économiser les deux premiers chiffres des dates semblait alors une bonne idée. Personne ne paraissait choqué par cette décision a priori rationnelle. D'ailleurs, ni Grace Hopper ni Bob Behmer n'avaient par exemple souhaité imposer une norme à 4 ou 6 chiffres pour coder les dates dans leur langage COBOL. De toute façon, l'an 2000, c'était loin. En 64, vous voyez, moi aussi j'économise les deux premiers chiffres. En 64 donc, quand IBM lance le premier ordinateur moderne diffusé à grande échelle, la mémoire coûte donc très cher. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la compagnie informatique décide de coder les dates par deux chiffres seulement et manque, là encore, une occasion d'imposer un standard compatible avec l'an 2000, parce que l'an 2000, c'est loin. En 1979 à présent, Bob Behmer commence à s'inquiéter sérieusement du problème. Il a tenté d'alerter les patrons de l'informatique américaine et même le président Nixon, sans succès. Il publie un article sur le sujet dans le magazine Interface Age, mais aucun décideur ne lui prête vraiment attention. En 1984, un ouvrage intitulé « Ordinateur en crise, comment éviter l'effondrement à venir des systèmes informatiques » paraît, il ne rencontre aucun écho. En réalité, si, un petit, IBM déclare être au courant du problème et assure que tout se passera bien, de toute façon, l'an 2000, c'est loin.
Une grossière erreur qui va en entraîner beaucoup d'autres dans tous les secteurs. En France, certaines banques connaissent déjà des difficultés pour établir des échéanciers de prêts immobiliers. Difficultés aussi pour les PME, pour la Sécu et pour la SNCF. Qui estime sa facture à payer à 60 millions de francs. Ou à l'échelle de la planète, entre 2000 et 3000 milliards de francs pour revoir toutes les dates de tous les programmes. Un passage obligé.
Pour nous, c'est aujourd'hui le virus le plus important de la décennie.
Michel Polaco, vous êtes journaliste, ancien directeur de France Info et de Radio France Multimédia, qui était la première rédaction web de Radio France. Vous avez publié en 1999 avec Jérôme Colombin un guide pour se préparer à ce qu'on appelait alors le BOG de l'an 2000. Dans les rédactions où vous travaillez, comment cette question était-elle envisagée à ce moment-là, dans les années 90? Est-ce que c'était avec un certain sérieux ou est-ce que c'était avec une certaine distance?
Non, c'était avec un grand sérieux que ça a été envisagé dans les années 90. Mais alors, ça a été un véritable vent de panique. Et on en a vu et lu, et on a vu et tout entendu là-dessus. Il y avait des choses plus ou moins sérieuses. On était entre la fantasmagorie et la négation. Peu de gens connaissaient quelque chose. Les pouvoirs publics ont évidemment voulu s'en mêler. Ils ont eu raison. Donc, il y a eu une espèce de plan d'urgence pour gérer l'affaire du BOG de l'an 2000. Et tout le monde s'est mobilisé. Et on en a entendu et vu dans les journaux et dans la presse pendant des mois. Ça a été terrible.
Il y a quand même deux clans à ce moment-là. Ceux qui pensent qu'il est urgent de paniquer et ceux qui restent sereins. De quel côté est-ce que vous vous placez ?
Alors moi, je suis dans les sereins, c'est-à-dire je pense qu'il va y avoir évidemment des effets, mais je ne suis pas catastrophé. Et d'ailleurs, avec mon ami Jérôme Colombin, nous sommes un peu le clown triste et le clown gay, c'est pour ça qu'on a fait ce livre-là ensemble. Bon, moi, je m'occupais des affaires aéronautiques, nucléaires, de défense, de sûreté, de sécurité, trucs comme ça. Lui, il s'occupait beaucoup plus d'affaires d'informatique, de multimédia, et... lui était plutôt dans la catégorie inquiet, et moi dans la catégorie... ça passera, faut voir.
Il reste 3 ans et demi pour agir. Malgré tout, les experts estiment que plus de 30% des entreprises n'auront pas résolu le problème au jour J. À ce moment-là, leur existence même pourrait être menacée.
Quels étaient les dangers réels, selon vous, Michel Polaco, de ce bug avant qu'il ne soit traité ?
Alors avant qu'il ne soit traité, les dangers étaient déjà un danger réel pour un certain nombre de cas. Par exemple, dans les hôpitaux, vous avez quand même un grand nombre de systèmes qui sont plus ou moins liés à des automatismes. Ces automatismes sont plus ou moins liés à des logiciels. Et vous aviez évidemment le risque que des pannes d'électricité, des impossibilités de démarrer des groupes électrogènes, des pannes d'ascenseurs, des choses comme ça, puissent avoir une conséquence très grave sur des interventions chirurgicales en cours, par exemple. Bon, vous aviez évidemment l'inquiétude sur les signalisations pour les trains. On a parlé de l'aviation, évidemment, en se disant, mais est-ce que il n'y a pas des avions dans lesquels les moteurs vont s'arrêter, des choses comme ça.
Alors justement, c'est un sujet que vous connaissez parfaitement, l'aviation. Le bug de l'an 2000, dans l'aviation, qu'est-ce que ça a représenté ?
Alors vous savez que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y avait des avions qui étaient en vol, et on n'est pas passé partout sur Terre à l'an 2000 en même temps. Donc ça veut dire que ça aurait voulu dire que certains avions allaient d'un seul coup, je ne sais pas, se désintégrer ou tomber comme des pierres ou je ne sais pas quoi. Bon, évidemment, ça ne s'est pas produit, c'est tout à fait logique. D'abord, il y a eu des temps d'anticipation. Il y a des systèmes qu'on a même arrêtés par sécurité.
Comme par exemple ?
Il y a eu des centres de contrôle, par exemple, je veux dire, pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il y a un certain nombre de choses qui ont été arrêtées juste à titre préventif parce que on avait d'éventuels doutes. Pas des certitudes, mais d'éventuels doutes. Les systèmes GPS, alors eux, fonctionnent sur des dates et des horaires. Donc là, évidemment, il fallait être très vigilant. Moi, j'avais un GPS, personnellement, dont on m'a dit, attention, tu verras, en l'an 2000, il marchera plus. Et mon GPS, effectivement, il a mis 40 minutes à se recaler lorsque je l'ai allumé la première fois après le passage à l'an 2000.
Michel Polaco, à ce moment-là, vous êtes directeur de Radio France Multimédia, donc la première rédaction multimédia de Radio France. Est-ce que ça a eu un impact pour vous, dans votre métier, ou pour Radio France en général ?
Alors, ça n'a eu absolument aucun impact pour notre équipe, sinon que ça nous a donné du boulot. Parce que, bien évidemment, on a considéré que ça faisait partie de l'actualité qui intéressait nos publics. Mais ça n'a eu aucune conséquence pour nous, parce que nous étions tous des bidouilleurs d'informatique. Nous sommes tous allés dans le DOS, dans le système d'exploitation de nos ordinateurs. Et nous avons tous vérifié si nos ordinateurs avaient des dates avec des années à 4 chiffres ou des années à 2 chiffres. Et bien évidemment, évidemment, ils étaient à peu près tous avec des systèmes d'exploitation avec des années à quatre chiffres. Donc, nous n'avions aucun risque.
Parce que le soir du réveillon, le Parisien, le journal, avait donné à ses journalistes des téléphones fixes pour qu'ils puissent passer éventuellement des appels si leur téléphone GSM, à l'époque, ne fonctionnait pas. Est-ce qu'à Radio France, vous vous souvenez de mesures de ce type-là ? Est-ce qu'on avait peur quand même de ce genre de choses ?
À Radio France, on n'a pas fait ça, mais à l'époque, le patron, qui était Jean-Marie Cavada, avait chargé Sylvain Anikini, qui était le patron des services techniques, de faire véritablement la revue de tous les systèmes pour être sûr que la radio n'allait pas s'arrêter.
Est-ce que ça a coûté très cher tout ça ?
Ça a coûté très cher à beaucoup de monde, à beaucoup d'entreprises, y compris à la nôtre, parce que par sécurité, nous avons tous fait appel à des sociétés d'expertise qui, évidemment, ont envoyé des tas de gens, ont fait des tas d'études, etc. Dans 98% des cas, ça a débouché sur « tout va bien », mais dans quelques pourcents, ça a débouché sur « il y a des modifications à faire ». Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent dépensé par prévention et un peu d'argent dépensé pour corriger.
À mesure que l'on se rapproche de la date fatidique, le sujet du bug de l'an 2000 prend de l'ampleur. Conséquence logique, il intègre la pop culture un peu partout dans le monde. Plusieurs chanteurs se mettent à y faire référence. En anglais, l'acronyme Y2K, qui signifie Year 2000, commence à être repris par des chanteurs un peu partout. C'est même le nom du titre phare d'un album de Will Smith intitulé Willennium. En France, une autre musicienne s'amuse du passage à l'an 2000 et des catastrophes, informatiques ou autres, qu'il pourrait provoquer. C'est Brigitte Fontaine, qui fait d'ailleurs une petite confusion entre les dates du 31 décembre 1999 et du 31 décembre 2000, preuve que tout le monde n'a pas échappé au bug.
Ouais, ça va faire un sacré charivari le 1er janvier, le soir du 31, de la fin de l'an 2000. Vaut mieux se garer, je crois.
Ça a l'air de vous réjouir en même temps.
Bon, ça va être un sacré bordel, disons. Mais moi, je préfère me garer.
Dès 1996, Michel Polaco et Brigitte Fontaine préfèrent se garer.
Oui, mais elle n'a pas tort, parce que regardez, en 1996, il y a quand même un événement majeur qui va se produire et qui va être une sorte de précurseur du bug de l'an 2000. La fusée Ariane 5, qui succède à Ariane 4, fait son premier vol. On lance Ariane 5, au bout de 37 secondes, la fusée se met à faire n'importe quoi et elle s'auto-détruit toute seule d'abord et deuxièmement avec l'aide, mais ça n'a servi à rien, des gestionnaires, puisque quand une fusée fait n'importe quoi, on la détruit. Et on analyse. Et on s'aperçoit de quoi ? Que pour faire des économies, on a repris, on va dire, le cœur de positionnement d'Ariane 4, qu'on a simplement réinstallé dans Ariane 5. Sauf que Ariane 4, ça comprenait, on va dire, quelques dizaines de millions de données, et Ariane 5, ça comprenait quelques milliards de données. Et lorsque l'Ariane 5 a décollé, au bout de 37 secondes, ses systèmes de contrôle, ainsi que son système de secours, ont été saturés. Donc, plus de système de mémoire, plus de système de guidage, et la fusée ne sait plus ce qu'elle doit faire. Et donc, Ariane 5 s'écrase, et c'est un échec qui est lié à un bug informatique lié à une erreur, lié à une économie, etc. etc.
Donc, et pas voyez, exactement le bug de l'an 2000,
c'est pas
mais quelque chose
le bug,
de
mais
similaire.
Ça nous montre que quand on conçoit des systèmes, on n'anticipe pas toujours ce qui va se passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans après. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qui parle du bug de l'an 2038 ?
Qu'est-ce qui va se passer en l'an 2038 ?
Eh bien, en l'an 2038, on va avoir une sorte d'équivalent du bug de l'an 2000 qui va toucher normalement à peu près tous les systèmes qu'on appelle Unix. Hein, c'est un mode, un système d'informatique qui va lui aussi, à son tour, se retrouver saturé.
Consommer. Donc encore aujourd'hui, on fait des économies sur les deux premiers chiffres des dates ou ça,
alors,
c'est quand
pas
même
sur
un
les deux premiers chiffres. Là, c'est plus sur les deux premiers chiffres, mais je ne sais plus exactement sur quoi c'est. Hein, je ne suis pas informaticien, mais je sais que c'est encore une fois lié à un concept décidé au début des années 70 pour des gros systèmes dont on sait qu'en 2038, il va arriver à sa saturation. Alors évidemment, on a du temps devant nous. 2038, on a encore 14 ans devant nous. Et on sait qu'en 2038, si on a résolu le problème, la phase suivante, ce sera dans 254 milliards d'années. Alors 254 milliards, 4 milliards d'années, ça nous laisse du temps puisqu'on sait que la Terre n'a plus que 4 milliards ou 4 milliards et demi d'années à vivre, comme le Soleil. Donc troisième phase, le bug de l'an après 2038, nous ne le connaîtrons pas et personne ne le connaîtra a priori.
Pour bien saisir cette appréhension du bug de l'an 2000, il faut se rappeler d'une chose, que celle-ci venait se combiner avec une peur plus profonde encore, celle du passage d'un millénaire à l'autre, même si en réalité, le troisième millénaire n'a débuté qu'un an plus tard, le 1er janvier 2001. Mais pour certains, l'année 1999 était une année démoniaque. En les retournant, les trois chiffres 9 composant cette date deviennent en effet 3-6, autrement dit, un signe satanique. Parmi tous ceux qui croyaient que des événements tragiques allaient se produire au moment du passage à l'an 2000, le couturier Paco Rabanne se distingue dans ses apparitions médiatiques. Né en 1934, cet Espagnol naturalisé français a innové dans la mode des années 60 avec ses robes en plastique et en métal, incarnant un style futuriste. Paco Rabanne était un mystique. Il pensait avoir vécu plusieurs vies. Notamment, il pensait avoir été grand prêtre et assassin de Toutankhamon dans une vie antérieure, mais également prostitué du roi Louis XV. Parmi ses nombreuses prophéties, il avait annoncé la chute de la station spatiale russe Mir sur Paris, avec une précision diabolique puisqu'il l'avait datée au jour près, le 11 août 1999. Thierry Ardisson, justement, l'avait invité dans son émission à l'occasion de la sortie de son livre 1999, Le feu du ciel.
Et nous, alors maintenant, on va passer à la fin du monde. Donc,
merde, déjà, là.
Ça, c'est pas là. Si, on arrive là. C'est la fin du monde, donc accrochez vos ceintures. C'est le 11 août 1999. Et on va en parler avec Elisabeth Tessier et Paco Rabanne.
Bonsoir. Bonsoir, Paco. Vous connaissez
je
tout le monde.
Je suis furieux.
Pourquoi ?
Thierry Ardisson, parce que je m'élève violemment du haut de mes 1m78 contre cette appellation la fin du monde. La fin du monde, c'est dans 5 milliards d'années.
Ah,
quand
c'est
le soleil, quand le soleil va devenir une géante rouge.
Champagne !
Et hop, bon, ben, mesdames, messieurs.
Non. Mais le 11 août.
Le 11 août.
Le 11 août dans 5 milliards d'années.
Mais non, c'est Paris.
C'est Paris,
le 11 août.
De la possibilité de la destruction de Paris cette année.
D'accord. Ouais.
Elle
c'est
est
que Paris.
Programmée dans toutes les prophéties.
Ouais, c'est que Paris.
C'est que Paris.
Ouais, bon, mais ça, on va attendre.
Michel Polaco sur cette archive.
Bah, il s'est planté parce que la station mère a été prolongée. Et en fait, on l'a fait rentrer dans l'atmosphère, c'est-à-dire se détruire en rentrant dans l'atmosphère.
Il s'est planté sur le reste aussi. Hein, vous
oui, il s'est planté sur pas mal de trucs. Cela dit, il avait un talent d'enfer. C'était toujours amusant de l'écouter, ou parfois très intéressant. Mais là, sur la station Mir, il s'est complètement planté. Elle a vécu 2 années de plus et elle a terminé, si mes souvenirs sont bons, entre le nord de l'Atlantique et le Canada, ou un truc comme ça.
Et si le bug était humain, s'interroge le journal Le Monde en juin 1999. Plus qu'une erreur informatique généralisée, la grande panne annoncée révélerait les angoisses de la société, c'est ce qu'écrit Le Quotidien. Dans ses colonnes, le publicitaire Yves Krief estime, je cite, que le choix de coder sur 2 chiffres au lieu de 4 est devenu un réflexe. Ainsi, après l'enfance de l'informatique enfouie sous les couches de programmes, il fallait que ce refoulé réémerge, ce bit manquant qu'on ne voulait pas voir. Il crevait les yeux, dirait Oedipe. En franchissant l'an 2000, on aura enfin liquidé l'informatique à la papa. Comment ne pas voir là une belle analogie avec le modèle freudien ? Est-ce que vous iriez jusque-là, Michel Polaco ?
Non, je crois que ça va un peu loin. Il faut savoir remettre les pieds sur terre au bout. Et on n'est pas obligé de revenir jusqu'à Freud, à qui on attribue à peu près tout ce qui se passe sur cette terre, pour parler du bug de l'an 2000.
Toujours est-il que le rapport à une technique qui nous dépasse, symbolisée par ce bug, est bien présent dans les médias. Le philosophe Paul Virilio y fait allusion dans la matinale de France Inter, le 21 décembre 1999. Prêtez l'oreille, on fait un peu de philo.
C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous nous sommes mis en situation de créer un accident qui aurait pour terrain d'application l'ensemble de la planète.
C'est la cybernétique, c'est-à-dire que jusqu'ici les accidents concernaient soit l'énergie, soit les transports, je pense bien sûr aux navires, le Titanic ou aux trains qui déraillaient. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place, avec la révolution de l'information, la cybernétique. C'est-à-dire que, si je voulais faire un mot très simple, je dirais, 19e siècle, c'est la standardisation industrielle. Le standard, la standardisation est l'image clé de la révolution industrielle. 21e siècle, c'est la synchronisation cybernétique des actions et des réactions.
Cyber-gouverné, attention.
Et donc cyber-war, cyber-gouverné, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que quelque part, le feedback devient un phénomène global, mondial, et que l'interactivité est à l'information ce que la radioactivité est à l'énergie. On est devant des phénomènes nouveaux qui concernent tout le monde au même moment. Le bug de l'an 2000 a déjà eu lieu, si on compte les milliards de dollars utilisés pour le parer, y compris dans l'armée.
Mais quel paradoxe tout de même que cette société tellement puissante, à la merci quoi, du petit cafard dans l'ordinateur, puisque c'est de là que vient le mot bug. Y aurait quoi ? C'est le petit caillou dans la chaussure, le scrupule qui pourrait tout bloquer aujourd'hui ?
Non, c'est la puissance. C'est pour ça que j'ai parlé de vitesse au début. On ne peut pas séparer progrès et accélération. Je rappelle qu'au 19e siècle, le progrès s'appelait le grand mouvement. Or, au 20e siècle, il s'appelait la grande accélération. On a franchi le mur de la vitesse, d'abord le mur de la chaleur, etc. Le mur du son, le mur de la chaleur, etc. On a franchi, on a acquis la vitesse de libération qui permet de satelliser. On a acquis la vitesse d'échappement qui permet d'aller se balader du côté de la Lune ou de Mars. Et donc, la puissance est devenue considérable. Pas seulement au niveau atomique, mais aussi au niveau informatique et au niveau cybernétique. La puissance est redoutable. Vous le savez, en voiture, plus vous allez vite, plus vous devez être attentif.
En fait, ça résume un petit peu les choses philosophiquement, Michel Polaco. La puissance est redoutable, le bug de l'an 2000 est arrivé, même s'il n'est pas arrivé, parce qu'on a dû dépenser des milliards pour faire qu'il n'arrive pas. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui peut être un petit peu inquiétant là-dedans ?
Tout ce qu'il dit est vrai, et ça n'est pas fini. C'est-à-dire que là, il parle en 1999. Regardez aujourd'hui le débat sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet. L'exploitation des big data, c'est-à-dire de ces milliards de milliards de milliards de milliards de mémoires qui se baladent dans le monde entier et qui sont partagées par à peu près tous les citoyens de la planète, avec toute la capacité que ça offre, ça inquiète beaucoup de gens.
Aujourd'hui, dans l'aérien, encore une fois que vous connaissez bien, quel est le niveau de danger lié à l'informatique ?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a un niveau de danger lié à l'informatique, parce que tous les développements qui ont été faits sur le numérique, on va employer plutôt le terme numérique, ont été faits de manière extrêmement raisonnable. En termes de sécurité, puisque là, c'est de la sécurité, le risque du numérique avec les avions est extrêmement limité, tout en disant que je pense que la présence de l'homme à bord et de l'homme dans toute la boucle reste totalement nécessaire parce que les programmeurs, aussi nombreux soient-ils, ne sont pas toujours capables d'imaginer toutes les situations qui un jour pourront se produire.
La technologie faisait peur bien avant l'an 2000 et continue aujourd'hui de nous inquiéter. Mais celle engendrée par le bug de l'an 2000 a eu une résonance encore plus grande parce qu'elle a coïncidé, dans l'esprit du public en tous les cas, si ce n'est dans la réalité, avec le passage d'un millénaire à l'autre, une symbolique source d'angoisse qui devait aller crescendo à mesure qu'on se rapprochait de la date fatidique, que la partie basse du sablier se remplissait inexorablement, que les secondes défilaient sans qu'il soit possible de s'y soustraire, ou presque. Au centre Pompidou, une horloge appelée le Génitron, qui décomptait les secondes jusqu'à l'an 2000, a même été retirée en août 1996, puis réinstallée plusieurs mois plus tard place de la Bastille, comme si cette matérialisation de la fin du monde nous dérangeait de façon insupportable.
C'est vrai qu'il y avait dans le Génitron quelque chose qui persiste toujours et qui devait peut-être poser des problèmes aux gens du centre Pompidou, c'est que comme on avait commencé en 87 un décompte qui s'avère inéluctable puisqu'on se rapproche à grands pas de l'an 2000, le Génitron ayant été la première horloge à compter à l'envers, on avait une conscience du temps qui passait qui pouvait effectivement être très légèrement angoissante. En tous les cas, c'est une explication que je peux donner pour la disparition du Génitron du centre Pompidou.
Je trouvais ça un peu inquiétant, mais quand même, c'est appréciable, plus que l'espèce de calendrier qu'on trouve sur la Tour Eiffel maintenant.
Je pense que l'an 2000, c'est un non-événement par définition. C'est une espèce de c'est avant tout l'anniversaire du calendrier, c'est le souffle du temps qui effleurera la Terre, rien de plus. C'est le projet qu'on a fait sur l'an 2000, le Génitron, et là pour montrer simplement effectivement qu'il ne va pas se passer grand-chose.
L'installation à Bastille, en fait, ça a été un épisode supplémentaire dans la saga du Génitron. Ça s'est bien passé ou il y a eu encore des petits problèmes ?
Ah non, mais c'est amusant. Oui, c'est effectivement, ça s'est pas passé si bien que ça. Il y a eu des réactions des élus, l'objet d'une encore une petite manifestation. Moi, je considère que c'est le dernier soubresaut d'une histoire un peu rocambolesque dont finalement je suis assez content. On s'est pas ennuyé avec le Génitron en tous les cas.
Des réactions enregistrées en 1998 par Olivier Doubre et diffusées dans Staccato sur France Culture.
Et oui, Michel Polaco, voir les secondes défiler comme ça jusqu'à l'an 2000, c'est un peu voir sa mort arriver d'une certaine manière.
Ça nous arrive tous les jours. Et vous voyez, moi, maintenant, retraité, je vois les jours défiler et je trouve qu'ils passent bien vite.
La fin du monde aurait-elle lieu finalement par le simple fait du passage à l'an 2000, sans même qu'il soit nécessaire d'y ajouter le risque informatique ? 365 jours avant le nouveau millénaire, plusieurs émissions s'interrogent sur cette notion précisément de millénarisme. Comme Tire-ta-langue sur France Culture, le 28 décembre 1999, l'invité était l'historien Jean Delumeau.
Le millénarisme s'origine essentiellement dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Dans ce chapitre 20, il est dit qu'après une première période de catastrophe cosmique considérable, le Christ va revenir sur terre et il va y régner pendant 1000 ans avec, je mets entre guillemets, les justes ressuscités. Et durant ce temps, Satan sera enchaîné en enfer. Par conséquent, on bénéficiera, du moins les justes ressuscités, bénéficieront avec Jésus revenu de 1000 ans de bonheur sur terre. Puis, les 1000 ans écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Se produira alors une nouvelle conflagration, plus courte que la première, et on passera à la victoire du bien sur le mal, au jugement dernier et à l'éternité. Donc, le millénarisme au vrai sens du terme, ce n'est pas la peur de l'an 1000 ou de l'an 2000, ce n'est pas ça, c'est l'espérance, ou la conviction, comme vous voulez, c'est l'espérance que le Christ va revenir sur terre et y régner avec les justes pendant 1000 ans. Voilà l'espérance millénariste.
Michel Polaco.
D'abord, tous les êtres humains ne sont pas philosophes, tous les êtres humains ne sont pas cultivés, tous les êtres humains n'ont pas lu l'Apocalypse, tous les êtres humains ne sont pas chrétiens, tous les êtres humains ne sont pas catholiques. Donc si vous voulez, ces peurs, telles qu'elles sont analysées là, ne concernent qu'une toute petite partie, une infime partie de la population. Il y a des grandes peurs massives. Moi, j'ai toujours entendu parler de la grande peur de l'an 1000. Et quand on a écrit ce livre avec Jérôme Colombin, le book de l'an 2000, on a cherché la grande peur de l'an 1000. Et la seule chose qu'on a trouvée, c'est une grande peur du 14e ou du 15e siècle avec les grandes pestes et les grandes maladies. Mais finalement, la grande peur de l'an 1000, c'était un truc plutôt inventé au 17e ou 18e siècle. Les êtres humains ont quand même des talents fantastiques pour s'inventer des fantasmagories.
Est-ce que le bug de l'an 2000 vous a appris quelque chose en tant que professionnel des médias et en tant que journaliste ?
Oui, absolument. Ça a été un grand phénomène de masse, très intéressant, avec, on peut dire, une grande inquiétude globale et mondiale, qui touchait à tout. Notamment des domaines qui m'intéressaient particulièrement, la défense, le nucléaire, l'aéronautique, l'espace, les satellites, la sûreté, la sécurité, les trains, enfin tous les trucs technologiques pour lesquels j'ai des grandes passions. Évidemment, je ne vous parle pas du multimédia. Donc ça m'a obligé à réfléchir à tout ça et j'ai vu qu'effectivement, il y avait eu une véritable angoisse mondiale, une véritable mobilisation mondiale, que ça peut donc exister. Et ensuite, il y a eu des débordements, mais il y a eu aussi une reprise de responsabilité, de rationalité, comme ça devait se faire. Et finalement, tout s'est globalement très 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 bien passé.
Le bug de l'an 2000 a donc été davantage qu'un simple défi technique. Il a été un symptôme de nos sociétés technologiques placées sous le spectre d'une grande défaillance, d'un risque de collapse généralisé, d'une peur de fin du monde qui n'est pas sans rappeler celle liée au dérèglement climatique. Mais comment a-t-on évité la grande pagaille informatique en 2000 et pourquoi n'y arrive-t-on pas quand il est question du réchauffement ? C'est ce que nous allons voir au cours du prochain épisode avec un expert qui a vécu de l'intérieur la gestion des dernières minutes de 1999. Crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax
find it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start